dès lors que mon intérêt consiste à consulter des textes, tirer des livres, écouter d'autres voix, alors il faut les faire entendre et les confronter. Et la citation est cette récolte de voix qui vont concerter grâce à moi. Donc je m'engage dans une recherche où, bien sûr, les choses les plus belles ne sont peut-être pas celles que je dis, mais dans lesquelles ma réussite sera d'avoir imaginé un chemin au long duquel des découvertes surviennent.
Jean Starobinski dans les entretiens à voix nue au micro de Gérard Massé, diffusé en 1999 sur France Culture. La patience et l'attention portées aux autres et aux œuvres, l'idée que consacrer du temps à un texte, à un tableau, à une pièce musicale ou une personne ouvre la possibilité d'une découverte, d'un éclat pour la beauté du monde, prend soin même de cette beauté-là. Voilà ce que je retiendrai de ce qui s'est dit entre hier et aujourd'hui à propos de Jean Starobinski, mort à 98 ans, né à Genève en 1920, ses parents quittent la Pologne où les lois antisémites leur interdisent les études de médecine. Il partage sa vie entre la psychiatrie et la critique d'art, notamment littéraire. Beaucoup décrivent un homme dont intelligence et sensibilité ne marchaient qu'ensemble. Beaucoup, dont vous, Martin Ruef, vous êtes philosophe, traducteur, professeur à l'Université de littérature de Genève, où Jean Starobinski occupa la chaire du XVIIIe siècle. Vous avez dirigé et rédigé l'introduction à l'épais volume Quarto Gallimard, La beauté du monde, dont je citais un extrait en première partie et qui rassemble les textes critiques de 46 à 2010 sur la littérature, les arts et la musique. Bonjour et merci beaucoup d'être avec nous.
Bonjour et merci à vous.
Pour évoquer sa mémoire, lui rendre hommage, je disais qu'il y avait une sorte de notion de prendre soin dans tout ce que j'ai lu et entendu depuis l'annonce de sa mort à son propos. Est-ce que c'est le lien qu'on pourrait faire entre sa pratique de la médecine et sa pratique de la critique, cette attention qui relève du soin?
Oui, c'est une bonne entrée pour évoquer cette vie et cette œuvre à double face. Il faut néanmoins rappeler que si Jean Starobinski, à la différence de son père, a accompli les deux cycles complets hein, de sa carrière médicale et de sa carrière de critique littéraire, il a fait une thèse dans les deux disciplines. Jean Starobinski, c'est un surdoué, hein, il savait tout faire, il savait tout écrire. Néanmoins, sa carrière de médecin a été brève. Elle est limitée au début des années 60. Hein. Il a exercé comme médecin à Lausanne pendant 2 ans seulement. Et ensuite, il est devenu historien des idées médicales, comme il le dit. Donc, c'était plutôt un regard d'intellectuel. Néanmoins, vous avez tout à fait raison, critique et clinique, c'est-à-dire la clinique comme attention aux malades. Et dans la maladie, je dirais, aux malades comme personne singulière. Et critique, attention à la littérature et dans la littérature aux œuvres singulières. Oui, c'était vraiment la tension qui caractérisait la personne et la pensée de Jean Starobinski. On a pu l'entendre d'ailleurs tout à l'heure chercher habilement ses mots et parler avec cette voix si reconnaissable de ce qui le passionnait. Il a employé une expression qui était tout à fait à lui et qui est une espèce de néologisme, pour ainsi dire. Il a dit « les œuvres vont concerter grâce à moi hein, ». C'est vraiment l'homme de la musique qui parle. Et ce concert des œuvres, oui, dans La beauté du monde, on a essayé de le faire entendre, mais ce n'est que une des étapes d'une œuvre tout à fait considérable.
Et c'est aussi dans cette archive, il évoquait un certain rapport à l'écoute, une manière d'être à l'écoute. Alors comment on pourrait dire du monde, des œuvres, des individus dans les œuvres? Qu'est-ce que vous diriez, Martin Ruef?
Ce que je dirais, c'est que dans les entretiens avec Gérard Massé que vous avez fait entendre en début d'émission hein, ont donné lieu à un livre d'entretiens qui ne présente qu'une partie hein, de ces dialogues. Et dans ces entretiens, Gérard Massé et Starobinski reviennent sur la formule de Montaigne, hein, qui est un petit peu l'essence même de l'art radiophonique. Hein. La parole est à moitié à celui qui parle et à moitié à celui qui écoute. L'écoute de Starobinski, elle était à la fois passionnée et distanciée. Il le disait tout le temps, il le dit fortement dans la relation critique. Hein. Pour aimer une œuvre, il faut avoir un élan, hein, et on s'approche d'elle par cet élan. Mais il faut savoir aussi s'en distancer, prendre une distance critique, parce que sinon on est, comme il le dit, englouti par elle, hein, avalé par elle. Et je crois que ce qu'il faut rappeler, c'est qu'il a passé sa vie à se mettre à l'écoute d'eux, mais si on est attentif à la structure verbale de cette formule, se mettre à l'écoute, hein, c'est une disposition et c'est en même temps une éthique, c'est-à-dire il faut un effort pour se mettre à l'écoute d'une œuvre. Et Jean Starobinski, qui n'était pas du tout un adepte des constructions théoriques, des échafaudages, hein, il a été assez loin de ce qu'on a pu appeler la nouvelle critique poétique des années 60-70, hein, si on peut très bien montrer ce qu'il le sépare d'un Genette ou d'un Barthes ou même d'un Todorov. Qu'est-ce qui caractérise ce geste? C'est que, alors que ces critiques-là, dans leur grandeur et leur inventivité géniale, étaient plutôt passionnés de taxinomie, hein, de compréhension de structures, les structures de l'être humain, l'œuvre dans les textes littéraires, mais aussi les structures sociales, hein, par exemple la critique marxiste ou la sociocritique d'un Goldman, hein, immense critique, Jean Starobinski, lui, ce qui vraiment le passionnait, c'était l'œuvre elle-même. Hein, il essayait pas, si vous voulez, de trouver des catégories dans une œuvre qu'il allait pouvoir rejouer dans une autre partition à propos d'une autre œuvre. C'était vraiment cet opéra de Monteverdi, cet air de Mozart.
Mais en tant qu'elles étaient incomparables, presque.
En tant qu'elles étaient singulières, oui. Oui, c'est vraiment un critique de la différence. Et d'une certaine manière, hein, c'est pour ça, même si c'est un homme qui, comme nous toutes et nous tous, je crois, était très ennemi des palmarès, c'est un des plus grands critiques au sens technique du terme, hein, c'est-à-dire, c'est pas un grand poéticien, hein, d'ailleurs, ses œuvres théoriques sont, n'en a que trois, hein, pour ainsi dire, mais c'est un critique immense parce que chaque fois que vous reprenez un texte de Starobinski sur un artiste, sur un peintre et sur un écrivain, vous êtes stupéfait par la justesse de son toucher, par la délicatesse de son tact. La transparence est l'obstacle, hein, et universellement reconnu aujourd'hui comme le grand livre sur Rousseau, le grand classique, etc. Et tous les rousseauistes dont je suis essaient à la fois de s'en inspirer et puis de prendre des distances pour dire, bon, ben nous, on essaie de faire autre chose. Mais c'est le livre sur Rousseau. C'est le livre sur Rousseau. Il n'y a pas... voilà, de même que Le Guérou, c'est le livre sur Descartes. Bon, voilà. C'est vraiment... il est... on ne peut pas rentrer dans Rousseau aujourd'hui sans passer par la transparence et l'obstacle.
Mais justement, pour comprendre un peu plus précisément, Martin Ruaf, avec vous, justement, l'essence de la délicatesse de se toucher, pour reprendre votre mot, est-ce que ça procède de la distance critique? Si on essaye de savoir de quoi elle est faite, cette distance-là, est-ce que ça pourrait être paradoxal? C'est-à-dire, à la fois très attentif, très à l'écoute de l'œuvre et du monde, et en même temps, avec de l'espace, quoi.
Oui.
Alors, il y a quoi dans cet espace ?
Il y a trois choses là-dessus. La première, c'est que cette dialectique, si on veut, c'est un terme qu'il aimait pas, il préférait relation au chemin, comme dans le texte dans l'archive, elle est pour lui tout à fait liée à l'héritage des Lumières. D'accord ? C'est-à-dire que si on veut être moralement, si on veut être efficace politiquement, il faut être toujours dans cette relation, hein, qui consiste à s'identifier et à prendre des distances, hein. Alors, c'est pas un objectiviste, hein, comme a pu l'être Lévi-Strauss, mais c'est quelqu'un qui met à distance. Deuxième remarque, avec quoi il met à distance? Je sais pas, on est tous les trois à cette table, on adore tel musicien.
On est trois parce qu'il y a Marc Alizard qui va parler tout à l'heure. Ouais. Bonjour Marc Alizard.
Bonjour Marc Alizard. on est trois à cette table, on a une passion pour Michaud, pour Proust, bon. Vous vous souvenez de cette phrase de Proust où Proust dit en fait, à la fin d'un concert, tout le monde applaudit, c'est bien, mais ce qu'il faut comprendre, c'est pourquoi on applaudit. Alors, se distancer, c'est comprendre pourquoi on applaudit, pourquoi on aime. Et alors, Starobinski, il utilise des instruments critiques, hein, et ces instruments critiques, c'est souvent des instruments de la stylistique, et qu'il ait fait de cette discipline une espèce d'école d'aridité, hein, de Glacier ou de Sérac, c'est tout le contraire. C'est quelqu'un qui utilise la stylistique pour dire, ben, par exemple, la syntaxe de Proust, hein, cette espèce d'hypersyntaxe, de jeu infini dans les parenthèses, les points virgules, les virgules, etc. C'est ça, en fait, le regard de Proust sur le monde. Et donc, passion pour Proust, mais élaboration à travers des instruments critiques d'un discours spécialisé, professionnel d'une certaine manière, qui permet de comprendre pourquoi on applaudit à Proust.
Mais d'accord, pas aride et pas aride, insensible.
Et c'est ça le troisième point, c'est que justement, une fois qu'on a fait cette distance critique, on peut revenir vers l'œuvre et dire comment on l'aime.
Hein, avec quoi simplement. Avec une vraiment profonde subjectivité, par exemple. C'est ça le troisième outil.
Alors, la thèse de Starobinski, hein, c'est que cette subjectivité du critique, armée de ces instruments critiques, ça va être une subjectivité partageable. C'est pour ça que tout le monde dit que c'était un grand prof, parce que oui, c'était un très grand professeur, en effet, parce que c'est quelqu'un qui avait une manière de mettre au service des étudiants, et maintenant de ses lecteurs, et j'espère qu'ils sont des lectrices, et j'espère qu'elles seront, et qu'ils sont toujours plus nombreux, un ensemble d'instruments critiques, j'insiste sur cette expression, qui permettent de spécifier, je dirais même de qualifier l'émotion esthétique.
Ouais. C'est pour ça, Martin Jouèf, qu'il est souvent présenté, ou que son intelligence est souvent présentée comme une intelligence sensible, et que les deux choses ne vont pas avec. Il faut de l'histoire des idées, il faut l'histoire de la littérature, il faut des connaissances en stylistique pour affiner la propre expression de sa sensibilité.
Oui. Et peut-être qu'on en reparlera avec Marc Alizart tout à l'heure. Starobinsky a écrit deux livres sur les Lumières, enfin trois, mais disons deux grands livres, 1789, Les Emblèmes de la Raison, et L'Invention de la Liberté. Ce sont des livres d'idées politiques, d'une certaine manière, où il redit combien les Lumières, pour lui, sont un mouvement d'émancipation, d'universalisation des subjectivités, du sujet de droit, etc. Mais si on regarde ces livres dans le détail, on s'aperçoit que c'est pas du tout comme Cassirer, un historien des idées qui passe par les philosophes. C'est pas du tout non plus un historien marxiste qui va étudier les rapports de force. Et Dieu sait qu'on peut étudier le XVIIIe siècle, etc. Non, non. Lui, qu'est-ce qu'il fait? Il passe par les peintres, par Chardin. Il passe par Monteverdi. Il passe par Mozart. Et il essaie de montrer comment la nouvelle sensibilité politique et la nouvelle sensibilité à la question de la liberté au XVIIIe siècle peut être... Enfin, on peut mener l'enquête à leurs propos à travers des œuvres d'art. Et toujours chez Starobinsky, vous avez l'alliance d'une intelligibilité des sensibilités et d'une, si j'ose dire, sensibilisation des intelligibles. C'est-à-dire que c'est quelqu'un qui va essayer de montrer comment les idées sont incarnées. C'est pour ça d'ailleurs qu'il était proche de Bashko, l'historien des mentalités Bashko, qui l'a rejoint à Genève, qui est quelqu'un qui travaille sur les imaginaires sociaux. Ils se sont retrouvés là-dessus, c'est-à-dire l'idée qu'il faut étudier les rapports de force aussi à travers leur figuration et leur incarnation esthétique.
Mais vous disiez tout à l'heure, Martin Rueff, que ça procède d'une forme de disposition, à la fois à l'œuvre et au monde. Et tout à l'heure, j'ai rappelé quelques brefs éléments biographiques, la migration de ses parents, son éducation. Vous disiez, c'est un surdoué, il fait à la fois une thèse en médecine. Bon. Est-ce qu'on peut trouver dans sa formation des indices qui mènent à cette, ce que je pourrais appeler une sorte de grande ouverture que vous décrivez? Mais ouverture vraiment sensible et intellectuelle.
Bon, ben là, vous feriez plaisir aux Suisses, parce qu'en fait, si vous voulez, il a tout
mais
à fait...
Mais pourquoi pas ?
Et il a tout à fait cette caractéristique genevoise, qui est une espèce de localisme. C'est quelqu'un, il a toujours dit, sa vie s'est déroulée dans un périmètre qui fait même pas 2 km², entre la rue de Carouge, la place de Plainpalais, et une ouverture à l'universel. J'insiste quand même sur un point, qui est un point dramatique, et que j'avais essayé de rendre plus intelligible dans la préface de La Beauté du Monde. C'est le rapport entre son héritage juif, la question juive chez Starobinsky, et la Suisse. Parce qu'il faut pas oublier que le père de Jean Starobinsky a été confiné en Suisse, c'est-à-dire qu'en fait il était apatride et que pour des raisons politiques, dans le détail desquelles je ne vais pas rentrer là, il est mort en fait sans être citoyen suisse. Et que Jean Starobinsky n'a eu la nationalité suisse qu'en 48, c'est-à-dire à 28 ans, c'est-à-dire que jusqu'à 1948, il n'a pas pu sortir de la Suisse. Et que ses vacances, il les passait au bord du lac, en faisant des tours à vélo, etc. Bon, alors évidemment, tout ça n'explique rien, parce qu'il y a beaucoup de confinés qui ne sont pas devenus des génies. Ça ne répond pas tout à fait à votre question, mais c'est quelqu'un qui a eu une espèce de passion de la littérature, une passion des arts, et qui, comme un homme des Lumières, et en ce sens-là, il est vraiment l'héritier des objets qu'il a étudiés, comme un homme des Lumières, a essayé, si vous voulez, de s'ouvrir à l'universel par les formes, par la vie des formes. C'est quelqu'un qui, jusqu'à la fin, jusqu'au tout dernier mois de sa vie, était un passionné des livres, des œuvres, des artistes, et aussi un passionné des gens.
Joyeux ?
Très. Vous l'avez entendu d'ailleurs, on a toujours l'impression que dans sa voix, il y a une espèce de rire qui flotte à la surface de ses mots. C'était quelqu'un de très rieur. Et son épouse, Jacqueline, est une femme d'une très grande drôlerie, et c'est des gens qui aimaient beaucoup rire.
Qu'est-ce que vous retenez, vous, à titre personnel, qui êtes dans une sorte de sillage de transmission aussi par l'université et Genève, Martin Rueff, que vous a transmis de précieux, Jean Starobinsky? pour la vie, pour l'enseignement, pour le rapport à l'art?
Bon, écoutez, c'est une question un peu émouvante, un peu personnelle. Je crois que ce qui est... moi, ce que je retiens vraiment de cette œuvre et de cet homme, dans une période et dans une, peut dire, un moment historique où la méfiance à l'égard des œuvres est si grande...
Et des critiques.
Et des... Oui, tout à fait. Je crois que ce que nous lègue Jean Starobinski, entre autres, c'est la foi dans les œuvres de l'homme. C'est-à-dire l'idée que les hommes, alors on pourrait rapprocher ça de Hannah Arendt, hein, ne se limitent pas au temps du travail et au temps de leur relation sociale, mais essaient de léguer, dans une espèce de, d'histoire au long cours, essaient de léguer des œuvres et s'inscrire dans le sillage de ces œuvres, les prolonger, les faire revivre, y trouver un nouvel élan et les donner à lire dans une espèce de... Oui, de grande, si vous voulez, collégialité, de grande communauté des esprits et des sensibilités. Ben oui, ça, c'est vraiment la leçon de Starobinski.
Même
oui.
Après, je cite comme ça complètement de souvenir, même après que les mains soient gelées, donc même après la mort, et on espère, vous en faisiez le vœu tout à l'heure, que les œuvres de Jean Starobinski vont trouver lectrices et lecteurs. Marc Alizart, un petit mot ou pas sur un souvenir de lecture?
Souvenir d'étudiant. J'ai lu La transparence et l'obstacle comme tous les étudiants qui travaillaient sur Rousseau et puis même d'autres sujets. C'était un incontournable absolu de nos études.
Eh bien, je vois que vous avez quand même un petit peu les yeux qui brillent en l'évoquant, donc c'est un plutôt bon souvenir.
Ah, excellent, c'est tout ce que Martin Ruff vient de dire réveille des excellents souvenirs.
Oui. Ok, tout ça faut, nos bibliothèques.
Faut pas oublier que des critiques aussi différents que Foucault et Derrida considèrent que le grand livre sur Rousseau, c'est le Starobinski. Donc si vous voulez, c'est quand même un livre qui a fait l'unanimité. On pourrait très bien expliquer d'où vient cette unanimité, ça serait l'objet d'une autre émission.
En tout cas, un grand merci, Martin Ruff, d'avoir répondu à notre invitation. On renvoie vers Le Quarto, publié chez Gallimard, puis on mettra plein de liens vers une bibliographie. Je cite aussi Les Enchantresses, précédées par La Séduction des Origines, qui va être republiée aux éditions du Seuil.
Oui, dans la librairie du 21e siècle, dans laquelle paraîtra aussi, sous la direction de Maurice Linder, un livre dont je m'occupe et qui s'appelle Le Corps et ses raisons, qui est un livre des écrits médicaux de Jean Starobinski.
Un grand merci, Martin Ruff.
Merci à vous.
France Culture, La Grande Table, Marie Richeux.
L'argent ou la monnaie est un objet extrêmement difficile à manier, aussi bien conceptuellement que pratiquement, parce que c'est un concentré de désirs et de violence absolument extraordinaire. Il y a beaucoup d'utopies de dépassement de l'ordre monétaire et qui prétendent instituer de nouvelles formes d'échange qui auraient dépassé la monnaie. Hélas, elles reposent sur des contresens tragiques. Ces expériences-là ont souvent tendance à s'abuser elles-mêmes sur le degré auquel elles dépassent en réalité l'ordre des transactions monétaires, et ceci pour n'avoir pas bien conceptualisé ce que c'est que la monnaie et ce que c'est que l'argent. Mais assez souvent, ces utopies reconstituent des ordres monétaires sans le savoir et sous couleur de dépasser l'ordre des transactions monétaires.
La voix du philosophe, sociologue et économiste Frédéric Lordon dans l'émission Arrêt sur image en 2013 pour introduire la deuxième partie de notre deuxième partie de la grande table. Donc aujourd'hui, puisqu'il est largement question de monnaie dans votre essai, Marc Alizart, Crypto-communisme paru aux Presses universitaires de France appelle à des lendemains qui codent à la fois par une relecture de Marx, par une histoire de la cybernétique et puis vous montrer comment un protocole comme Bitcoin peut aboutir à une réelle organisation horizontale. Alors pour reprendre, je vous redis bonjour déjà, comme ça, comme le veut la coutume, et pour reprendre ce que disait à l'instant Frédéric Lordon, si on veut forcément penser un renouveau politique, qu'il s'agisse du communisme ou d'une revitalisation plus générale de la gauche, il faut en passer par une nouvelle pensée de la monnaie, Marc Alizart.
Oui, je pense que c'est absolument essentiel. Et c'est d'autant plus essentiel que c'est caché. La monnaie, comme le dit Frédéric Lordon, c'est quelque chose d'abstrait, de très complexe. Je dois dire que je suis évidemment pas un spécialiste des questions monétaires. C'est en philosophie, on n'a pas vraiment l'habitude de traiter de ce genre de sujet. Et me plonger dans la littérature sur le sujet a été absolument passionnant. Et alors,
Et alors ça va dans quel sens? Vous dites, il faut faire de la monnaie un objet de pensée pour renouveler la pensée politique, ou voulant renouveler la pensée politique, vous arrivez à la monnaie, Marc
Elisard ? Non, mais si vous voulez, c'est lié aux évolutions qui ont déjà été décrites hein, du capitalisme. On est passé d'un capitalisme industriel, qui est le capitalisme que Marx traite, hein, à un capitalisme qu'on appelle financier. On appelle ça le tournant néolibéral parfois. Mais en réalité, il y a une simplification qui est faite qui ne qualifie pas tout à fait l'objet contre lequel on doit s'émanciper. Le capitalisme financier, c'est le capitalisme des banques. Bon, sauf que le capitalisme et les banques, c'est une vieille histoire qui commence à Venise au XVe siècle et qui se poursuit avec l'invention des banques centrales au XVIIe siècle en Angleterre, en Hollande, etc. Moi, je pense qu'il faut parler de capitalisme monétaire. Ce qui s'est passé comme tournant, c'est que après l'appropriation privée des moyens de production, qui détermine le moment capitaliste industriel, on a assisté à l'appropriation privée des moyens de production monétaire. C'est-à-dire qu'on a privatisé les banques centrales. Et aujourd'hui, si vous voulez vous émanciper du capitalisme financier, vous devez vous émanciper de cette appropriation privée des monnaies, du pouvoir d'imprimer la monnaie. Alors le pouvoir d'imprimer la monnaie a toujours été le pouvoir du souverain, mais le souverain a parfois coïncidé avec le peuple. On n'en est pas tout à fait là dans la situation historique actuelle qui, pardon, je termine très très brièvement, bascule, qu'on pourrait être concret, à partir des années 1971, au moment où, au fond, l'ordre monétaire international qui était né de la Deuxième Guerre mondiale éclate, avec une décision de Nixon qui va être de supprimer l'articulation, l'arrimage entre le dollar et l'or. Et alors là, on arrive à quelque chose d'absolument fascinant, c'est-à-dire qu'on a un pays qui peut payer sa dette en imprimant son propre argent. C'est une puissance absolument colossale qui détermine la totalité de notre situation historique politique.
Et pour dépasser cette puissance, on en arrive à ce que vous faites, Marc Elisard, à la fois une histoire de l'Internet, une histoire des mouvements cyberpunk, cyberfunk, du cybernétisme, et ce protocole Bitcoin. Je suis désolée, vous allez en passer par un petit processus d'explication. Pourquoi est-ce que ce protocole Bitcoin permet d'échapper à la verticalisation du pouvoir monétaire que vous venez d'expliquer, Marc Elisard? Et pourquoi est-ce que ça tend vers une horizontalité qui n'aura pas d'effet que sur la monnaie, mais aussi, pourquoi pas, sur l'organisation politique et la vie des individus?
Alors, ça aura un impact sur la monnaie, donc sur l'organisation politique, puisqu'on vient de le dire, le capitalisme s'étant monétarisé, le démonétarisé, ou en tout cas traité autrement, cette question de la monnaie aura un impact direct sur les décisions politiques. Sur les décisions politiques, aujourd'hui, les États sont endettés. Donc la planche à billets, en quelque sorte, c'est une question qui est très pratique. On vous dit, sur n'importe quel service public, on ne peut pas payer, on est endetté. Mais on est endetté en quoi? En monnaie. Et en monnaie, d'où vient cette monnaie? Bon, bref. Donc on voit bien qu'il y a un rapport extrêmement direct entre la question monétaire et la question politique. Là vous me demandez de reprendre le livre, mais en gros les deux idées un peu forces que j'ai essayé d'articuler. La première, effectivement, c'est du côté de Marx, c'est-à-dire, est-ce que Marx peut encore servir? Est-ce que, parce que Marx était à l'époque du capitalisme industriel, il n'a rien à nous dire sur le capitalisme financier? Non. Bon, il y a plein de choses passionnantes. Marx avait anticipé la mondialisation, la financiarisation. Il y a aussi des choses qui manquent. Il y a des choses qui manquent, de mon point de vue, la théorie de l'information qui est capitale.
Mais dont vous dites qu'il a eu une forme d'intuition.
Oui, mais comme toujours, Marx, c'est un génie intellectuel. Je veux dire, il a besoin de savoir ce qui se passe en Russie. Il apprend le russe. Il parle cette langue, enfin comme Starobinsky, enfin d'une certaine manière, c'est un humaniste de la Renaissance. Et il a été aussi le contemporain de Darwin. Donc la théorie de l'évolution, c'est quelque chose qui est très important chez lui. C'est aussi un contemporain de la thermodynamique. C'est ce qui explique la thermodynamique. C'est la science des machines à vapeur. Donc c'est ce qui explique c'est la découverte du concept de l'énergie. La fin du 19e siècle, c'est une révolution mentale absolument colossale dont on n'est jamais sorti. La découverte du concept de l'énergie, elle traverse le travail de Marx et elle est fondamentale dans la loi de la valeur. La loi de la valeur, c'est ce qui fait que une valeur d'une marchandise est égale au temps de travail qui lui a été consacré. Donc à la quantité d'énergie qui est accumulée en quelque sorte dedans. Mais Marx a cette idée absolument géniale qui est que il dit ça dans les Grundrisse, et beaucoup d'intellectuels ont contribué à faire émerger cette autre pensée, notamment Yann Moulié-Boutan. Marx a cette idée géniale que peut-être que la loi de la valeur, qui donc qui est le point d'articulation aussi de la survaleur, c'est-à-dire de la manière dont le capitaliste va capter
une partie de cette énergie,
peut-être dépassée par ce qu'il appelle le general intellect, la société de l'intelligence, en fait, la société de la connaissance, qui est celle dans laquelle on vit. Parce qu'à ce moment-là, il y aura un découplage, grâce à la productivité des machines, etc., entre l'ouvrier, la machine, la valeur. Et ça, c'est le point qui me paraît être le point de transition entre un Marx, industrialiste énergétiste, et puis un deuxième Marx, celui qui nous intéresse, qui nous permet de penser l'intelligence, la connaissance, la société de l'information.
Donc, relecture de Marx, comment aujourd'hui cette lecture peut informer et nourrir une sorte d'analyse du monde contemporain et... puisque ça donne le titre à votre livre, Marc Alizart, Crypto-communisme, crypto-monnaie et protocole Bitcoin.
Oui, alors bon, si vous dites à un crypto-monnayeur, j'allais dire, à quelqu'un qui s'occupe de ça, qu'il a un lien avec Marx, il va sauter au plafond, parce que une des origines intellectuelles du Bitcoin est plutôt
anarchie de droite.
Les crypto-anarchistes appellent entre les crypto-anarchistes viennent du mouvement cyberpunk, et l'anarchisme aux États-Unis, il a pas du tout les mêmes colorations qu'en France. C'est pas la tradition de Bakounine, c'est une tradition plutôt libertarienne qui vient de Hayek, qui est plus difficile à digérer, on va dire, pour nos oreilles et nos ventres, et qui est violemment anticommuniste, parce que bon, ce Hayek, c'est quelqu'un qui vit dans la Mittel Europa des années 30. On peut pas lui reprocher d'avoir été anticommuniste. Il est aussi d'ailleurs antifasciste. Enfin, il fait partie d'une génération à laquelle appartient aussi d'ailleurs Norbert Wiener, qui est traumatisé par la double confiscation de la démocratie, par le communisme stalinien d'un côté et puis par le fascisme de l'autre, et donc qui ont essayé de penser des moyens différents d'articuler de renouveler la démocratie et de lui permettre d'échapper à l'emprise de cette recentralisation permanente qui va confisquer en permanence le pouvoir populaire.
Voilà. Je vois bien que vous retardez le moment où il va falloir expliquer ce que c'est protocole Bitcoin. Alors, Bitcoin... et pourquoi c'est plus horizontal que les banques fédérales et les banques européennes et les banques mondiales.
Bitcoin, c'est extrêmement complexe. D'abord, c'est la résolution d'un problème mathématique. C'est un objet intellectuel absolument fascinant qui a été créé par un ou plusieurs, on ne sait pas très bien, personnages qui étaient très versés dans toutes sortes de techniques, la cryptographie, donc les mathématiques, la théorie des jeux, qui sont connus ou est connu sous le nom d'un pseudonyme qui est Satoshi Nakamoto. C'est-à-dire la question de l'anonymat, de la disparition de l'auteur. Si on parlait comme Zarubinsky, est centrale dans le. Elle est importante parce que puisqu'on est en train de lutter contre la centralisation ou la possibilité
et
de reprivatiser,
tout est ouvert. Le code est ouvert. On peut rentrer dans tout.
La transparence est l'obstacle. Ça qualifie très bien Bitcoin parce que c'est absolument transparent. C'est un livre de compte, une sorte de registre qui est posé à la vue de tous et où tout est transparent en termes d'opérations qui est menée.
C'est-à-dire, on échappe à des livres de compte qui appartiendraient au point de passage et de captation que seraient les banques.
Voilà.
Et d'un seul coup, il n'y a plus qu'un seul livre de compte sur lesquels sont inscrites toutes les transactions.
Voilà, il est posé sur la place de la Concorde
et tout
le monde peut regarder ce qui s'écrit à tout moment.
Soit on sait qui prête de l'argent, qui en gagne, etc. Et on le sait d'autant plus.
Non, on ne sait pas qui. Parce qu'il y a aussi l'obstacle. Il y a la transparence et l'obstacle. L'obstacle, c'est l'opacification par la cryptographie d'un certain nombre de données.
Et qui rend l'information inviolable.
Exactement.
Ça devient la valeur ultime, Marc Alizart, le fait qu'une information puisse circuler sans être déchiffrable, sans être finalement captable.
C'est un pouvoir extraordinairement puissant, peut-être très dangereux et peut-être très salvateur, comme probablement tous les pouvoirs. Si le sujet aujourd'hui, c'est que la valeur est massivement produite dans la société de l'information de manière collective, l'autre sujet, c'est qu'elle est captée. Elle est capturée à plein de niveaux par des géants qui minent nos datas et qui récupèrent cette valeur pour leur propre bien.
Ce qui vous fait dire que la véritable révolution de l'Internet, si elle a lieu ou quand elle aura lieu, c'est une circulation, non pas autre circulation des idées, mais une circulation d'autres idées. Marc Alizart, puisque vous revenez sur cette histoire-là, vous revenez sur la fameuse communauté hippie aux origines de l'Internet, on voit bien que votre réflexion, elle articule ces deux choses-là aussi, une histoire proprement technologique.
Oui. La révolution Internet n'a pas eu lieu. Voilà, on pourrait dire ça. C'est effectivement une révolution très, très utopiste qui est menée par des techno-hippies, des cyber-communistes, qui sont des geeks, en quelque sorte, en marge du mouvement hippie et qui imaginent une société horizontale. Voilà, ça doit être Internet. On est en 1960, hein, en 68. Et donc, on a un réseau réticulé qui va permettre de décentraliser, d'accomplir la vraie démocratie, hein, la vraie idée de liberté, au fond. Évidemment, échec total. Nous, on est en 2019 et on est en train tout le temps de parler entre nous, hein, de sur tous les plateaux, de cette question de la recentralisation d'Internet.
Mais vous dites que vous n'allez pas en remettre une couche.
Je pense qu'on peut ne pas en remettre une couche si on s'intéresse à l'histoire de ces mouvements-là, de l'intérieur. Après les techno-hippies, donc on est en 68, ils ont déjà l'anticipation d'Internet. C'est-à-dire que dès 1980, vous en avez d'autres, donc les cyberpunks, qui ont l'anticipation des problèmes d'Internet. Donc c'était il y a 30 ans, 40 ans. C'est une vieille histoire déjà. Et puis vous avez les cypherpunks, qui sont les petits-enfants des cyberpunks, donc Satoshi Nakamoto, les inventeurs du Bitcoin, etc., qui disent, bah, écoutez, nous, on a trouvé une solution. On a trouvé une solution pour régler les problèmes d'Internet. Et ça, c'était il y a 10 ans, 2008, et ça coïncide avec la crise des subprimes, hein, qui est le tournant aussi, le moment où cette histoire d'Internet, qui est purement au départ de l'information, de la communication, des échanges d'idées, comme vous disiez, devient aussi un pouvoir qui doit s'emparer des instruments financiers.
Est basé sur une circulation, sur des consensus, sur des validations des uns par les autres. Je voudrais juste profiter du fait que vous avez publié un article, Marc Alizard, sur AOC, qui s'étonnait de voir sur un gilet jaune marqué, en tout cas être encouragé à acheter du Bitcoin, parce que vous vous dites, ah, c'est intéressant, peut-être convergence des luttes, les geeks et les prolétaires. Trop rapidement, malheureusement.
Écoutez, oui, c'est encore une fois, Bitcoin, ça peut être conçu comme un instrument de spéculation. On pense que ça appartient aujourd'hui déjà, que c'est corrompu, que c'est une histoire de banquiers, que de spéculateurs, de boursiers. Alors qu'en fait, il y a une vraie appétence pour Bitcoin, il y a une vraie convergence effectivement sur le fait que les élites sont décrédibilisées du point de vue politique ou bancaire, et que les Bitcoiners comme les Gilets jaunes veulent quelque chose qui ressemble à une démocratie plus directe, hein, et ça, une décentralisée, et ça effectivement, c'est quelque chose qui peut relier ces deux.
Mais ce serait faire sans des grosses entreprises ou des gros groupes qui vont faire des fermes de mineurs et qui peut-être vont réintroduire de la verticalité.
C'est un vrai sujet dans la communauté Bitcoin. Moi, je crois que c'est un faux sujet. Mais la question de la recentralisation et de la manière dont on peut posséder 51% de la puissance de minage de Bitcoin est un vrai sujet qui crée des débats passionnants parce qu'ils sont politiques au sens propre du terme, rousseauiste. Enfin, c'est la question de la volonté générale qui est en question.
Quel homme de radio, transition avec Martin Rueff, qui piaffe d'impatience sur sa chaise.
Non, parce que en écoutant les propos passionnants de Marc, je me rappelais du titre de Starobinsky, de son livre de 89 qui s'appelle Le remède dans le mal, et c'est tout à fait ça en fait. On est c'est la phrase de Rousseau, hein, que Starobinsky cite toujours des fragments politiques, hein. Il faut montrer dans l'art perfectionné, donc dans le développement d'Internet, hein, la réparation des maux que l'art commencé fit à la nature. Et donc c'est une vraie philosophie de l'histoire, c'est-à-dire que en fait on peut pas revenir en arrière, il y a pas de rétrogradation. Les gens qui lisent Rousseau comme un penseur rétrograde oublient complètement qu'il a dit la nature humaine ne rétrograde pas. La seule solution qu'on ait, c'est justement de trouver des remèdes dans le mal.
C'est superbe.
Oh, vous êtes vraiment parfaits tous les deux, vous serez réinvités. Un grand merci Martin Rueff et un grand merci à vous Marc Alizard. Crypto-communisme, c'est paru ensemble, dit Martin Rueff en chuchotant. Voilà, une idée de coplateau. C'est paru aux éditions des Presses universitaires de France. I get money from you to tickle your whim or blow up your mind. Then I give money to you, and you pay me back in kind. Now I gave money to Bill. He pays up my bills and helps me make up my mind. And I give money to Bill, and he will be on my side. Et en plus, ça nous permet de terminer avec The Loving Spoonful Money. Merci à la grande équipe de la grande table du jour. Maya Neskovic, Antoine Suzarelli, Mathilde Tonfourcade, Oriane Delacroix, Laura Dutèche-Pérez et Henri Leblanc. À la réalisation, c'était Milena Elig et au son, Jean-Guilain Neige.